Bonjour à tous, très heureux, honoré d'être là avec vous. Toute l'Église, les responsables se sont organisés pour qu'on puisse me libérer pour être là. Donc voilà, c'est une grâce et je sais qu'on est l'Église de Clermont tous ensemble. On se réunit dans différents lieux avec différentes personnes, mais on est l'Église. Et quand on m'a invité, j'ai demandé s'il y avait une thématique, quelque chose à respecter, voulant rentrer bien sagement dans le moule. Mais on m'a dit non, à l'écoute de l'Esprit pour nous. Et donc j'ai demandé à Dieu, mais de quoi je peux leur parler maintenant? C'est bien d'avoir carte blanche, mais de quoi je parle? Et le Seigneur m'a dit, tout simplement, m'a conduit vers quelques lectures de rencontres que Jésus a eues dans le Nouveau Testament. Et chaque fois que Jésus intervient avec quelqu'un dans la Bible, on a quelque chose à en retirer. Et je crois vraiment dans ces différentes rencontres que Jésus a subies. Ce n'est pas des rencontres qu'il a provoquées, c'est des moments où il y a des gens qui viennent à lui, malgré Jésus, et il se passe quelque chose. Et on va essayer de regarder un peu tout ça. Des histoires que vous connaissez sûrement. La première, c'est l'aveugle Bartimée. On peut la lire dans le livre de Marc. Marc 10, des versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» À crier, hein. Je me retiens. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, il devait déranger quand même. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est intéressant ce texte parce que Jésus y passe. Il est là avec tous ses disciples, avec toute une foule. Et juste, il veut aller à Jérusalem, il n'a pas prévu de s'arrêter là. Et il entend ça, il entend quelqu'un qui l'appelle et il s'arrête. Quelqu'un l'appelle à l'aide. Et ce qui m'a étonné, c'est que Jésus n'appelle pas cet aveugle. Il dit à la foule, appelez-le, faites-le venir. À ceux qui l'ont entendu, faites-le venir. Et il vient. Déjà là-dedans, il y a quelque chose qui nous parle. C'est notre travail en tant que foule. Des fois, on croise des gens sur le bord du chemin. Et Jésus n'attend qu'une chose, c'est qu'on dise à ces personnes, viens auprès de Jésus. Et Jésus t'appelle, et Jésus est là, et Jésus veut faire quelque chose pour toi. Cette personne, elle avait entendu parler de Jésus, elle n'avait rien vu. Ce n'était pas possible de voir. Elle a juste entendu, il y a Jésus qui est là. Et d'un seul coup, la foule lui dit, mais prends courage, Jésus peut faire quelque chose pour toi. Combien on connaît de personnes autour de nous qui ont besoin de ce Jésus qui est là? Et Jésus ne l'appelle pas directement. Et des fois, nous aussi, en tant qu'aveugles, on l'a tous été à un moment ou à un autre, avoir besoin de Jésus. Sur le bord du chemin, à crier, Jésus, fais quelque chose pour moi. Dans cette situation, dans ce désespoir, dans cette détresse, dans mon corps, dans mon travail, fais quelque chose pour moi. Et il semble que Jésus ne répond pas. Mais des fois, c'est juste que d'autres personnes sont envoyées par lui, auprès de nous. Et on peut être ces autres personnes. On peut être. Et d'autres l'ont été pour nous. Je ne pense pas qu'on soit tous venus à l'église par hasard. Je ne pense pas qu'on ait tous rencontré Jésus parce qu'un jour, il s'est révélé comme ça, devant nous, devant nos yeux, on l'a vu. Non, quelqu'un nous a parlé. Et si vous êtes là ce matin, c'est peut-être parce que vous avez dit à quelqu'un autour de vous, « J'en peux plus de ma vie. J'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose. » Et quelqu'un vous a dit, ben, « Viens à l'église, Jésus peut faire quelque chose pour toi. » La bonne nouvelle, c'est qu'il va le faire. Il s'arrête, il prend un moment, il dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et si on lui répond honnêtement, sincèrement, en disant « Mais tu vois bien ma vie, tu vois bien le bazar que c'est, tu vois bien comment je m'en sors plus. » Jésus te dit « Ta foi t'a sauvé, ta confiance en Jésus. Tu attendais quelque chose de Jésus, il va le faire. » Comme on chantait tout à l'heure, je n'ai que ma prière. De dire à Jésus bah, « C'est tout de toi. » Et Jésus peut le faire. Et nous, en tant que foule aussi, quand on est à l'extérieur, on a ce message à délivrer. Et Bartimée entend ce message et il se lève d'un bond. Lui qui est aveugle, il jette son manteau, il se lève, il court jusqu'à Jésus. Je pense qu'il s'en fichait de bousculer tout le monde. Il ne voyait rien, il y va, il y va, il y va. Il a envie, il sait qu'il va se passer quelque chose. Et il se passe le miracle. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne lui dit pas « Maintenant, viens et suis-moi ». Il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Je trouve ça assez incroyable, parce qu'à d'autres moments, effectivement, Jésus va dire aux gens « Suis-moi, donne-moi toute ta vie ». À Bartimée, il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et Bartimée, il fait quoi ? Le contraire. Oui, il aurait pu partir, il était sauvé. Il avait reçu le miracle qu'il voulait. Des fois, on va en connaître des gens comme ça, qui vont venir à l'église, qui vont recevoir de Dieu ce dont ils ont besoin, et maintenant qu'ils se sentent mieux, ils vont retourner dans leur vie d'avant. Et ça arrivera. Mais lui, Bartimée, il a compris qui était Jésus, je crois. Et alors que Jésus le renvoie au loin, lui, il s'accroche et il suit Jésus sur le chemin. Mais il n'était pas obligé. Ce n'est pas comme quelqu'un qui va payer sa dette à son médecin qui a fait le miracle. C'est juste, Jésus, je t'aime tellement pour ce que tu as fait. Je veux te suivre. C'est quelque chose qui peut nous encourager peut-être à dire, si Jésus a pu faire quelque chose pour lui, il peut aussi le faire pour moi. Si la foule a pu être utile pour lui, je peux être utile pour d'autres. Et c'est comme ça que l'Église grandit. C'est parce qu'on témoigne à l'extérieur, Jésus peut, Jésus va, vient à Jésus. Et Jésus fera ce qu'il a à faire dans la vie de ceux qu'il nous confie. Une deuxième rencontre dont je voudrais parler, c'est la rencontre de la femme adultère. Vous connaissez aussi ce texte. Dans Jean 8, versets 1 à 11, « Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. » Imaginez la violence de la scène. Ils traînèrent cette femme. Ils ne l'amènent pas gentiment devant Jésus. Ils la firent avancer devant la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Humiliation. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous ordonne de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, il ne lâche pas l'affaire. Ils insistaient, répétant leur question. Alors, il se releva et leur dit, cette phrase célèbre dans le monde entier, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. » Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Il y a deux types de personnes, en plus de Jésus dans ce texte, bien sûr. Il y a Jésus qui est là, il enseigne, il vit sa vie et il ne demande rien à personne. Mais on lui amène cette femme pour lui tendre un piège. Et Jésus, toujours rempli de grâce. On voit dans ce texte qu'il n'attend pas qu'on soit parfait. Il attend de nous qu'on soit bienveillant, qu'on soit rempli d'amour pour le pécheur, qu'on ne soit pas trop rapide à condamner, à juger. La justice appartient au juge et à Dieu seul, mais des fois je me pose la question, je suis qui moi dans cette rencontre ? Des fois, soyons honnêtes, on se sent comme la femme adultère. On reconnaît qu'on est pécheur. On se sent misérable devant Dieu. Peut-être pas vous. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'arrive de temps en temps de me dire, mais je suis tellement pas à la hauteur. Je me sens encore sale des fois quand je me présente devant Dieu. Et je sais des fois que mon péché est trop grand par rapport à ce que je voudrais. Des fois, on n'a pas encore rencontré la grâce de Jésus et on est de fait encore cette femme adultère, cet être pécheur complètement et on cherche une solution, on cherche quelque chose qui pourra nous aider à aller mieux. Mais il faut mettre un mot là-dessus, ça s'appelle le péché. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, déjà par nature, nous dit la Bible, si on ne comprend pas dans quel état on est, si on ne comprend pas qu'on mérite la mort comme cette femme-là méritait d'être lapidée, alors on ne comprendra jamais la grâce de Dieu. Il nous pardonne pas seulement et surtout pas parce qu'on mérite d'être pardonné. Il nous pardonne parce qu'on a besoin d'être pardonné. Et c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Si tu te sens comme cette femme adultère, si tu as l'impression d'être emprisonné dans ton péché, d'être dans un péché qui te dépasse même, si tu as l'impression d'être sale dans la présence de Dieu, Jésus ne te condamne pas, il te pardonne. Il te pardonne. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, la grâce de Dieu. Mais il faut prendre conscience de notre état, des fois. Se dire, mais oui, en fait, je suis plus proche de la femme adultère que du saint. C'est pas facile, mais c'est indispensable. Comprendre qu'on a besoin d'être pardonné et non pas qu'on mérite d'être présenté à Jésus dans la bonne grâce. Hélas, parfois, on est aussi comme ces pharisiens, ces maîtres de la loi, bien comme les accusateurs. On est rapide à dégainer, à vouloir faire justice. On regarde les autres de haut parce que, ben non, nous on est mieux quand même. Ben oui. Moi, ça fait longtemps que mes gros péchés, je les ai laissés tomber. Donc, non, ceux qui sont encore pécheurs, pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi ils ne comprennent pas plus vite? Ben oui, ils méritent tout ce qui leur arrive de mal. Regardez leur désobéissance, c'est normal. Et je vous le dis parce que on le vit tous, je pense. Quand je vois des vies, des fois, qui sont tellement difficiles et que je me dis, mais s'ils avaient obéi à Dieu, tous ces péchés-là n'auraient pas amené telles conséquences. Tout serait tellement plus facile dans leur vie. Et des fois, on juge un petit peu. Et on prie, quand même. Jésus fait quelque chose. Mais dans notre cœur, on se dit quand même, il le mérite un petit peu. Et Jésus voudrait nous changer de ces choses-là, de ce regard-là. Parce que des fois, il nous le dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Et à chaque fois, je me dis, mais moi, d'où je viens? Et je pense que ces chefs religieux auraient dû se dire, mais d'où je viens, moi? Qui je suis pour oser condamner? Je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas, nous ne serons jamais, vous n'êtes pas. Désolé, vous êtes là ce matin, vous êtes au culte, vous avez l'air bien beau, souriant, vous avez bien chanté, mais vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas assez bien pour que Dieu vous dise, tu es parfait, entre dans mon paradis. Vous êtes juste là en disant, Jésus, j'ai besoin de toi. Et il dit, ok, je te donne la main et je t'ouvre la porte. Parce que Jésus est celui qui nous fait grâce. Et il attend de nous qu'on fasse la même chose. Il attend de nous qu'on ne soit pas orgueilleux spirituellement, qu'on ne se sente pas au-dessus des autres. Qu'on ne condamne pas nos frères et sœurs en oubliant que nous aussi, nous passons par là. Nous sommes passés par là, nous passerons peut-être encore par là. La Bible nous dit, si vous êtes debout, prenez garde à ne pas tomber. Donc si on se sent bien et fort en Dieu, qu'on puisse le remercier en disant, ben, garde-moi pour la suite, dans ta main, à l'abri. Ça, c'est ce que les pharisiens vivent après, hein, de juger leur prochain, d'être prêt à condamner, d'être prêt à faire leur propre justice, d'être prêt à montrer tout ce qui ne va pas chez l'autre. Et finalement, Jésus a la belle parole, toujours la bonne parole adaptée à chacun. Celui qui n'a jamais péché. Si on se l'appliquait à nous-mêmes des fois, un peu plus. Avant de critiquer, avant de dire du mal, avant de juger. Si moi j'avais jamais péché, je pourrais peut-être me permettre. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. La Bible nous dit, je crois que c'est dans Jacques, ouais, dans Jacques 4, verset 12, « Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui tu te prends, toi, qui juge ton prochain ?» C'est ce que vivent les pharisiens et c'est l'opposé de ce que Jésus nous demande de vivre. Au lieu du jugement, la grâce, le pardon, la bienveillance. Et à la fin de ce texte, on remarque que cette jeune femme n'est pas lapidée, cette femme. Les accusateurs sont repris dans leur conscience et ils se retirent les uns après les autres. Oui, alors toujours du plus vieux au plus jeune. Des fois, les plus jeunes sont tellement remplis de conviction qu'eux, ils savent qu'ils sont tellement bien. Et les plus vieux savent qu'il est tellement difficile de ne pas pécher, de mener toute sa vie jusqu'au bout en étant bien comme il faut, que nos consciences nous parlent un petit peu plus vite. Mais cette condamnation qui devait tomber sur cette femme, qui était méritée par cette femme, j'insiste là-dessus, on voit à la fin du texte qu'elle va retomber sur Jésus. Vous relirez ce chapitre, mais il est magnifique, ce chapitre de la femme adultère. Et à peine cette femme est-elle sauvée, que le peuple continue d'accuser Jésus. On voit ça au verset 59. Jésus vient de leur parler, Jésus vient de faire grâce à cette femme. Jésus leur explique qu'il est le salut. Et à ces mots, verset 59, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. C'est incroyable. Ils sont tous prêts à pardonner cette femme adultère parce qu'ils sont repris dans leur conscience. Mais quand Jésus leur dit « Je suis le salut », ils ramassent les pierres et ils veulent tuer Jésus. Parce que le sort que méritait cette femme, ça nous montre qu'il est prêt à retomber sur Jésus. Le péché qui était le nôtre, la condamnation qui était la nôtre, Jésus l'a porté à la croix. Et ce texte nous démontre ça bien avant même sa mort. Ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter, mais Jésus disparaît dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Le sort que méritait la pécheresse retombe sur Jésus. Ce qu'on méritait retombe toujours sur Jésus. Toujours. Il l'a pris sur lui, nos condamnations. Ça a pris quoi ? Entre le moment où la femme est pardonnée et le moment où ils veulent lapider Jésus. Si on lit le texte, on se dit c'est même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. Alors on va dire 10 minutes, une demi-heure de discussion peut-être. Pas sûr. Pas sûr. Mais même jour, même heure, même lieu, même personne. Jésus offre le pardon et Jésus est tout prêt à être condamné à la place, lapidé à la place de cette femme. C'est incroyable. Avec quelle vitesse on peut passer du pardon au jugement. Pourtant, on est dans la présence de Jésus, quelqu'un qui ne méritait pas du tout cette mort. Mais des fois, on supporte certaines choses, on fait grâce à certains. C'est beaucoup plus facile de faire grâce aux pécheurs qui viennent d'arriver dans nos églises, d'être compréhensif et de jeter la pierre aux autres. Troisième histoire que je voudrais regarder, ça sera la dernière, le jeune homme riche. Le jeune homme riche dans Matthieu au chapitre 19, les versets 16 à 26. Dans les deux précédentes histoires, les gens qui ont rencontré Jésus, c'était malgré eux. Bon, la femme adultère, bien sûr, c'est vraiment malgré elle. Hein. Elle s'est fait pécho, plein péché, et hop, on la traîne par les cheveux jusqu'à là. Et finalement, l'aveugle aussi, il est là par hasard. Mais là, le jeune homme riche, il vient vers Jésus. Et il lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre. Honore ton père et ta mère. » Tout ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai appliqué, lui dit le jeune homme. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue-le, produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous voyez, je disais tout à l'heure, des fois Jésus nous renvoie, des fois il dit viens et suis-moi. Parce qu'il sait à qui il parle. Il donne une réponse différente à chacun. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Ce jeune homme riche, quand il entend la loi citée par Jésus, les commandements, il dit, « Ben, j'ai déjà fait tout ça. Je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour être sauvé ?» Et on voit à travers ce texte qu'il est dans une impasse complètement. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il a beau obéir de tout ce qu'il sait de la Bible, il ne sait pas comment être sauvé. Alors il cherche, et il cherche sincèrement une réponse, celui-là, contrairement aux autres qui voulaient piéger Jésus. Lui, il sent qu'il lui manque quelque chose et il n'arrive pas à mettre le doigt dessus, il ne comprend pas. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Ben, fais ça, ça, ça. Ben, je le fais déjà, qu'est-ce que je dois faire de plus ? Vous remarquerez que Jésus lui répond, mais il ne répond pas. Lui, il comprend en fait que la loi ne le sauvera pas. La loi ne peut pas le sauver. toute la Bible nous prouve et nous conduit à comprendre que la loi, notre obéissance à la loi, ne nous sauvera jamais. Ça ne nous permettra jamais d'être sauvés. La loi nous fait juste comprendre qu'on n'y arrive pas, qu'on ne peut pas, qu'on a besoin d'un sauveur. Et lui, il pense qu'il va trouver auprès de Jésus le petit geste à faire en plus. Hein, le petit truc qui va le rendre vraiment à la hauteur, parfait, pour mériter son paradis. Et Jésus lui demande rien pour être sauvé. Il n'attend pas de lui qu'il fasse quoi que ce soit. Mais il veut qu'il comprenne que Jésus doit devenir tout pour lui. Tout. Il n'a besoin de faire rien d'autre que de suivre Jésus, que d'accepter Jésus, que de comprendre que Jésus est le trésor le plus ultime, le plus grand, sa vraie richesse. Parce que, quand même, quand Jésus lui répond, qu'est-ce qu'il lui dit ? C'est au verset 21 pour ceux qui suivent dans leur Bible. Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, il ne lui dit pas si tu veux être sauvé. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Et Jésus lui répond, si tu veux être parfait. Je pense qu'il y a une différence. Il veut montrer à cet homme qu'il n'est pas capable d'être parfait, comme il aimerait être parfait. Il lui manque quelque chose qu'il n'est pas prêt à lâcher. Sa richesse, son trésor. Pour nous, on peut mettre ce qu'on veut. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens très très riches parmi nous. Mais on a tous quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. À un moment ou à un autre. Notre travail, notre réputation, notre temps, nos familles. On a quelque chose qui nous empêche des fois de suivre Jésus pleinement. Et Jésus veut juste lui faire comprendre qu'il n'y arrivera pas. Il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas mériter, il ne peut pas être parfait. Il met le doigt dessus. Tu penses être assez bien ? Je vais te montrer l'étape d'après, lui dit Jésus. Si vraiment tu veux être parfait, c'est trop difficile pour ce jeune homme qui se rend compte qu'il ne mérite pas du tout son salut. Et il s'en va tout triste. Il s'en va tout triste. Au lieu de comprendre que Jésus est le plus grand des trésors, il s'en va tout triste. Il est arrivé vers Jésus en pensant être assez bien, et il repart en se disant, mince, c'est raté. Et les disciples ne comprennent pas. Mais en fait, personne ne peut être sauvé ? Jésus leur dit non. Aucun homme ne peut se sauver. C'est pas aucun homme ne peut être sauvé, c'est pas ça, c'est aucun homme ne peut se sauver, aucun homme ne peut être assez bien, aucun homme ne peut être à la hauteur du salut. Mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Je vous ai dit, Jésus lui répond pas si tu veux être sauvé, mais si tu veux être parfait. Ce mot parfait, dans le sens du texte, veut dire si tu veux être accompli, si tu veux être pleinement réalisé, si tu veux être dans toute ta vertu, dans toute ton intégrité. C'est pas être sauvé, ça. C'est pas être sauvé, c'est juste être soi-même au max. Si tu veux ça, il te faut encore me suivre, lui dit Jésus. Quelle déception. Et c'est des fois une déception pour nous aussi. On pense être assez bien quand on va vers Jésus. Et il n'y a pas longtemps, j'avais un rassemblement de responsables de jeunesse dans notre union d'église. Et on avait mis une chaise pour que ceux qui voulaient recevoir la bénédiction des autres, on puisse prier pour eux. Voilà, ils viennent s'asseoir et on l'entoure et on prie. Et quand un jeune est venu, j'ai vraiment eu cette pensée. Quand on s'approche de Jésus pour chercher son cœur, pour chercher ce qu'il pense de nous, pour chercher à comprendre, il faut aussi être prêt à ce que ce ne soit pas très agréable. Des fois, on se dit, Jésus, il va me dire, oui, c'est bien. Oui, je t'aime. Oh, tu as fait l'effort de te lever le dimanche matin, bravo. Mais il y a plus. Est-ce que tu as envie de savoir ce plus que Dieu a pour toi ? L'étape d'après. Tu penses être assez bien parce que, on peut mettre tous les parce que qu'on veut, mais il y a encore plus. Et Jésus met la barre de plus en plus haute. C'est ce qu'on vit dans notre vie de croyant, je pense. Au début, on se détache de choses assez faciles. On a conscience. C'est des gros péchés, c'est des vilaines choses, c'est du temps mal géré, c'est des choses qu'on regarde, c'est des choses qu'on fait, et on laisse tomber. Et plus ça va, plus le Seigneur travaille à l'intérieur, à nos pensées, à nos cœurs, à notre orgueil, à notre vraie nature. Et là, ça commence à faire mal, à piquer un peu plus. Parce que Dieu veut nous transformer pour qu'on soit tout à lui et qu'il soit tout en nous. Je crois que c'est là ce que Jésus attend de nous. Qu'on vienne vers lui honnêtement en disant, voilà, tel que je suis, quelle est l'étape d'après ? Qu'est-ce que tu me demandes de plus ? Pas pour être sauvé, je vous mets au large. Jésus a déjà payé, il a déjà reçu les cailloux à votre place. Il a déjà été lapidé, crucifié, mis à mort. Il a déjà fait tout ça. Tu ne peux rien rajouter à ton salut. Si tu crois que tu as accepté Jésus comme sauveur, tu es sauvé. Mais tu peux être plus, tu peux avoir plus encore, tu peux faire plus, tu peux être un disciple plus efficace, tu peux être un disciple plus accompli, tu peux faire trembler l'enfer beaucoup plus. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience qu'on ne mérite pas. On n'est pas assez bien et on n'y arrivera pas. Alors, la bonne question qu'aurait dû dire ce jeune homme, au lieu de repartir tout triste, dire, mais ça, Seigneur, j'y arriverai pas, sauve-moi, c'est trop dur. Je pense que s'il avait été honnête avec Jésus, au lieu de repartir tout seul en se sentant rejeté par Jésus, s'il lui avait dit, mais c'est impossible, Jésus lui aurait dit, on va y aller petit à petit. Déjà, viens avec moi. Déjà, vois ce que je fais, vois les signes, les prodiges, vois qui je suis, apprends à me connaître, et tu verras que tu vas te détacher de tout ça. Mais ce jeune homme pensait tellement avoir droit, avoir assez bien fait, qu'il était hermétique à ce message. Trop dur de tout lâcher. Et Jésus, c'est ce qu'il attend de nous pourtant. Mais il ne demande pas à chacun de vendre tout ce qu'on a et de le suivre. Déjà parce que pour certains, ça ne représenterait pas grand-chose, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis on vit dans un monde, on a des frais, on a des choses. C'est ce que je dis à des personnes qui prennent la Bible tellement au littéralement, qu'ils veulent obéir et des fois ils nous reprennent même en disant « mais ça c'est marqué ». Je dis « oui, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et après on en reparle ». Ah oui mais, voilà. Toute la Bible, il y a des choses symboliques, il y a des choses qui sont adaptées à certaines rencontres. On n'est pas amené à vivre tout ce qui est marqué comme c'est marqué. On a le droit de faire preuve d'intelligence aussi. Mais peut-être on peut prendre un moment en nous-mêmes avec ces quelques histoires et nous poser la question. Mais en fait, qui je suis ? Qui je suis ? Peut-être tu es dans une église pour la première fois. Peut-être on t'a dit, viens à l'église, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Peut-être tu n'avais jamais entendu parler vraiment de Dieu. Et tu es aveugle, ou alors tu es là mais avec tellement de problèmes de santé, tellement de difficultés dans ta vie, dans ton couple, dans tes finances, dans ton travail, et tu as l'impression de plus rien voir là, le monde il est tout noir. Toutes les problématiques qu'on peut imaginer. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, te dit-il. Oh, Seigneur, aide-moi à y voir clair. Fais le miracle dont j'ai besoin. Jésus passe, Jésus est là. Vous savez ce qu'il est dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, Jésus est là. Vous le croyez qu'il est là ce matin ? Il est là comme il était dans les évangiles. C'est le même. Ah, nos yeux sont empêchés de le voir. Nos yeux ne le voient pas. On ne voit pas tout ce qui est spirituel. Certains ont cette grâce. Mais en tout cas, le Seigneur peut faire le miracle dont on a besoin ce matin encore. Peut-être on se retrouve plus dans la foule en disant « mais Seigneur, tu m'appelles à parler de toi à l'extérieur. Seigneur, montre-moi qui sont ces Bartimées, ces aveugles sur le chemin. Les gens auxquels il faut que j'aille voir, auxquels il faut que j'aille dire, Jésus peut faire le miracle pour toi. Jésus t'appelle, Jésus veut faire. » Et si vous êtes la foule pour tous ceux qui vous entourent, l'église sera bientôt trop petite. Si chacun ramène une personne en disant la semaine prochaine, « Viens, Jésus peut faire quelque chose pour toi, vous verrez. » La croissance de l'Église. Mais des fois, on n'ose pas. Des fois, on n'ose pas parce qu'on ne sait pas si Jésus va vraiment faire. On ne sait pas si Jésus va vraiment répondre. Oui, c'est marqué, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est un de mes versets préférés. Si tu crois, mais tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. C'est complètement dingue comme phrase. Mais je la fais souvent, je crois. Et pourtant, je sens bien que je ne crois pas toujours assez. Je n'ai pas toujours assez confiance en toi. Ou alors, j'ai peur de me tromper, de mal annoncer, de mal dire, de mal faire. Seigneur, je crois et je veux accomplir et je veux annoncer. Des fois, on peut être comme cette femme adultère aussi. Notre conscience nous reprend quand on est dans la présence de Dieu. La semaine, on arrive à peu près à vivre notre vie, hein. Le péché, la semaine, on arrive assez bien à l'endormir. Et puis quand vient le dimanche matin, qu'on est là dans les louanges, on est un peu repris. Jésus ne te condamne pas non plus. Il n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend de toi que tu lui demandes de te pardonner. Tout simplement. et il va te donner la force de changer. Il va t'aider, il va t'accompagner. Il va te dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Et ce message de grâce nous libère et nous donne l'envie de changer, l'envie de le laisser nous transformer. Et des fois, on est comme ce jeune homme riche. On pense être assez bien. Ça, c'est des choses qu'on trouve un peu dans le monde. Hein, des gens qui disent, mais moi, je suis mieux que certains chrétiens. Ben oui, sûrement. Sûrement que tu es mieux. Oui, tu donnes plus de ton temps pour les pauvres. Oui, tu donnes de ton argent. Oui, tu aides les plus démunis. Oui, tu fais jamais de crasse. Oui, tu ne voles pas. Oui, tu es... Ah ben oui, tu es mieux que certains chrétiens que je connais. Tu es même mieux que moi. C'est pas pour ça que tu es sauvé. Et nous aussi, en tant que chrétiens, des fois, on se dit, mais je suis quand même mieux que ceux de l'église là-bas. Je suis quand même mieux que ceux du rang derrière. Je suis quand même mieux que ceux qui... Non. Le Seigneur te demande juste d'être mieux que toi-même, des fois. Ça suffit. Et de laisser te montrer qu'est-ce que tu as encore besoin de changer. Qu'est-ce que tu as encore besoin de laisser. Mais rien n'est suffisant et rien ne le sera jamais. Juste d'accepter qu'il te sauve. La Bible nous dit, dans Hébreux 12, versets 10 et 11, « Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. » Est-ce que tu as envie de participer à sa sainteté, d'annoncer, de montrer, de démontrer combien il est saint, de te laisser transformer, libérer ? Ah, certes, nous dit le texte, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Une vie juste et vécue dans la paix. Alors, peut-être ce matin, vous n'êtes pas venu pour entendre ça. Vous êtes venu, je ne sais même pas quelle est la culture de prédication chez vous. Vous êtes venu peut-être pour entendre des textes, des théories, qu'on vous dise c'est bien. Ah, bravo, vous êtes à l'église. Moi, je veux juste vous dire, il y a plus. Il y a trop de chaises vides là. Il y a trop de chaises vides. Je sais que vous traversez une période délicate, mais pour vous-même qui êtes là, de dire à Dieu, mais Seigneur, effectivement, tu m'as pardonné. Je méritais tout ça. Je ne méritais pas ta grâce. Je n'étais pas assez bien. Et j'accepte ton pardon et je décide de répandre ce pardon autour de moi aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à gagner en libérant le pardon autour de nous. Même, comme nous dit la Bible, si ce n'est pas agréable de premier abord comme ça. Mais il y a quelque chose à vivre. Et je voudrais vous inviter, peut-être, on peut prendre une minute, vous mettre debout, si vous voulez bien, et faire ce petit bilan honnêtement devant Dieu, dans ces histoires, qui je suis. Qui je suis, je vais juste prier. Mais dans ces histoires que j'ai entendues, Seigneur, montre-moi qui je suis. Que l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs et nous révèle, fasse remonter les choses pour nous montrer ce qui a besoin d'être changé, pardonné, guéri, restauré, consolé. Parce que Jésus est là au milieu de nous. Il te pose la question, que veux-tu que je fasse ? Si tu as besoin d'être pardonné, il te dit, je te pardonne. Si tu as besoin d'être guéri, il pose sa main sur toi. Si tu as besoin de comprendre de nouvelles choses dans ta marche avec lui, il te révèle. Seigneur Jésus, je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui sont là, pour toi, pour recevoir quelque chose, pour vivre quelque chose avec toi. Et Seigneur, merci parce que toi aussi tu es là pour eux. Et tu donnes à chacun selon ce qu'il a besoin. Tu donnes à chacun, Seigneur, ce que tu as prévu comme bénédiction pour ce jour. À ta façon, ce n'est pas toujours facile à recevoir, ce n'est pas toujours agréable à entendre. Mais Seigneur, donne à chacun la parole qu'il a besoin d'entendre. que tu sondes les cœurs. Et merci d'accomplir, Seigneur, ce que tu promets. Merci de pardonner et d'accueillir le pécheur, mais de nous faire prendre conscience peut-être de notre état. Merci de visiter, Seigneur, celui qui a besoin d'être fortifié, encouragé, relevé, guéri, celui qui a besoin d'un miracle dans son cœur ou dans son corps, dans ses pensées, dans son esprit. Que tu sois à l'œuvre en chacun. Et Seigneur, montre-nous comment être aussi de meilleurs disciples, plus efficaces. Comment annoncer ta parole à l'extérieur? Comment faire venir les gens autour de toi, auprès de toi? Comment partager notre foi? Comment dire à ceux qui souffrent, prends courage, Jésus t'appelle. Et place autour de nous, Seigneur, des personnes qui te cherchent, qui ont besoin de toi. Ouvre nos cœurs à leurs besoins. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir chacun ici et accompagner chacun pendant la semaine. Garde-nous, protège-nous, fortifie-nous, sanctifie-nous. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Et viens graver ce qui a besoin d'être gravé dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen.